RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Simon Geschke, la barbe et la banane. Le coureur allemand remporte la 17e étape en solitaire à Pralou, la plus belle victoire de sa carrière. Thibaut Pinot n'a pas pu l'en empêcher. La descente, c'est toujours pas son truc. Il finit 4e. Chris Froome a tranquillement neutralisé ses rivaux pour garder le maillot jaune. On va voir tout ça avec Cyril Guimard à 18h15. Les Rolling Stones sont à Paris. Je veux parler des basketteurs de l'équipe de France. Ça y est, les Bleus sont rassemblés pour préparer l'Euro qui aura lieu en France en septembre. Ils sont tous à l'INSEP. Boris Diaw, le capitaine des Bleus, sera notre invité à 18h30. Christophe Lemaitre à nouveau blessé, le sprinter forfait pour le meeting de Londres. Dans deux jours, inquiétude sur sa présence aux mondiaux d'athlétisme. C'est dans un mois tout pile à Pékin. On va en parler avec Renaud Longuèvre, le manager des équipes de France. Puis Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux, sera notre invité à 20h30. Vous inquiétez pas, on va lui parler d'Yohan Gourcuff, mais aussi de la guerre entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Guy Cotterêle, président de la JOCR, sera en ligne avec nous, lui, à 20h45, à la veille du comité exécutif de la Fédé. L'actu sport, c'est avec Martial Fernandez. Salut Martial.
Bonsoir Virginie, salut à tous.
Avec une 17e étape très animée aujourd'hui sur le Tour.
Avec deux courses pour le prix d'une entre Digne-les-Bains et Pralou, celle à l'avant avec la victoire d'étape de l'Allemand Simon Geschke et celle pour le classement général avec Chris Froome qui a su contrôler toutes les attaques de ses adversaires pour le maillot jaune. Christophe Cessieux est à Pralou. Christophe, il fallait avoir des yeux partout aujourd'hui.
Effectivement, avec cette double course dans cette 17e étape, comme tu l'as dit Martial, pour la victoire d'étape tout d'abord, on a bien cru aujourd'hui que Thibaut Pinot allait enfin pouvoir décrocher sa victoire d'étape, lui qui était échappé en compagnie de 27 autres concurrents et qui a fait forte impression dans la montée du col d'Alos lorsqu'il a tenté de revenir sur Simon Geschke, l'Allemand, parti quelques minutes plus tôt. Thibaut Pinot a effectué une superbe montée, il était revenu à moins d'une minute au sommet. Malheureusement, derrière l'ascension du col d'Alos, il y avait la descente et c'est là que tous les espoirs de Thibaut Pinot se sont envolés lorsqu'il a chuté. Oh, pas une vitesse folle, il ne s'est pas fait mal, il a pu remonter sur sa bicyclette, mais a priori le guidon était légèrement coincé, légèrement dévié et du coup eh bien il a perdu beaucoup de temps dans la descente et n'a pas pu revenir ensuite dans la montée, même si durant les premiers kilomètres de la montée il a réussi à reprendre du temps. Finalement il s'incline, il termine 4e de cette étape remportée donc par Simon Geschke. Derrière eh bien la deuxième course dans la course, celle pour le classement général avec des attaques là aussi, des chutes là aussi, puisque Alberto Contador est tombé, il est ce soir relégué assez loin, et Christopher Froome une nouvelle fois impérial qui n'a laissé personne l'attaquer, ou en tous les cas a réussi à répondre à toutes les attaques, notamment celle de Quintana qui a attaqué pour la gloire. Au classement général, Chris Froome reste donc leader avec désormais 3 minutes 10 sur Quintana et 4 minutes 09 sur Valverde qui monte sur le podium ce soir après l'abandon de TJ Van Garderen. Contador est 5e à 6 minutes 40, le premier français c'est toujours Warren Barguil qui s'est accroché et qui est 10e avec un retard de 13 minutes 08 sur Chris Froome.
Merci Christophe, tu parlais de Thibaut Pinot, forcément déçu après sa chute dans la descente du col d'Alos.
Ça veut pas. Voilà, je tombe dans la descente, après je suis bloqué, je sais pas pourquoi je tombe, et puis voilà, la descente catastrophique après, voilà, c'est comme ça, cette année ça veut pas, je retenterai demain. Il faut faire avec, c'est le sport, c'est ce qui fait la beauté du sport, voilà, c'est dommage, c'est comme ça, j'avais les bonnes jambes pour gagner. Demain, voilà, je vais rattaquer, voilà, ça passera, je vais pas avoir de regrets à Paris, donc là je donne le maximum, mais pour l'instant, voilà, ça marche pas, mais ça va, j'espère que ça va marcher d'ici la fin de la semaine.
Thibaut Pinot avec Pierrick Ten, Jean-Christophe Perrault, le deuxième du Tour l'an dernier, toujours en galère, il termine aujourd'hui à 22 minutes du vainqueur Geschke. Il continue de donner tout ce qu'il a depuis sa chute.
Ça va un petit peu mieux, bon, bah, pas pour jouer devant, mais en tout cas pour suivre le peloton et pour allier l'arrivée. Après, bon, je reste déçu de mon niveau de forme, hein, parce que je suis pas beaucoup acteur sur ce tour. J'ai essayé ce matin là, de prendre l'échappée, mais on est sorti dans un groupe de 30 et les gros coureurs sont revenus derrière, donc ça sera compliqué quand même.
Voilà, Jean-Christophe Perrault, et outre l'abandon de TJ Van Garderen, celui du champion du monde aussi, le polonais Michał Wiatkowski. Demain, 18e étape, Gap Saint-Jean-de-Maurienne, 186 500 km, avec notamment l'ascension du col du Glandon, classé hors catégorie, et surtout les difficiles lacets de Montvernier.
On va reparler de tout ça avec Cyril Guimard dans quelques minutes maintenant sur RMC.
RMC, le Mercato Show.
Et le PSG accélère sur le dossier Angel Di Maria.
On se rapproche d'un accord, mais on n'y est pas encore. C'est une information RMC Sport. Paris a transmis une offre de 65 millions d'euros à Manchester United. Mais comme pour chaque histoire de gros sous, ça négocie ferme. Nicolas Cuoco, il faut surtout que les trois parties, Paris, le joueur et Manchester, y trouvent leur compte.
D'abord, il faut que les deux clubs se mettent d'accord. La transaction est en bonne voie puisqu'une rencontre a eu lieu ce lundi à Londres entre Olivier Létang, le directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain, et les dirigeants de Manchester United. À l'issue de cette réunion, le club de la capitale a proposé 65 millions d'euros, bonus compris, soit 10 millions de moins que ce qu'avait payé Manchester United il y a un an au Real Madrid. Ensuite, le Paris Saint-Germain et l'Argentin doivent se mettre d'accord. Le joueur a envie de rejoindre le PSG et il a dans ses mains une proposition de contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 10 millions d'euros, une somme qui, selon nos informations, ne serait pas à la hauteur de ses attentes. L'ancien madrilène souhaiterait en obtenir 2,5 millions de plus. Si le Paris Saint-Germain accède à sa demande, Di Maria deviendrait le troisième joueur le mieux payé du PSG, derrière Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva.
Demain, journée importante pour le foot français qui pourrait aboutir à un clash. Jour de comité exécutif de la Fédération française. À l'ordre du jour, la réduction à deux du nombre de descentes et de montées entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Décision de la Ligue de foot professionnel soutenu par les clubs de Ligue 1, mais contesté par ceux de Ligue 2, Maureen Lehoux.
Oui, la guerre Thiriez-Legrette semble plus que jamais déclarée et à travers elle, c'est tout le football français qui vacille. Le président de la fédération, Noël Legrette, et le comité exécutif s'apprêteraient demain à annuler cette décision de la Ligue de football professionnel dirigée par Frédéric Thiriez. Une prise de position inédite de la FFF qui a un objectif, défendre les clubs de Ligue 2, enfin surtout ses plus gros pensionnaires comme Auxerre, Lens ou Nancy. Mais la décision de la Ligue, même si elle n'a pas été prise dans une totale unanimité et a pu parfois ressembler à un coup de force, a aussi ses défenseurs. Aujourd'hui, tous les présidents des clubs de Ligue 1 ont affiché leur solidarité avec cette décision. Tous, sauf un, Bertrand Desplat, président de Guingamp, gendre de Noël Legrette, et auquel il a lui-même succédé après 28 ans de service à ce poste. Le linchal ne se lave plus en famille dans le football français. Un football français qui n'a jamais semblé aussi coupé en deux, aussi proche d'une crise de ses institutions. Et qui jouera demain matin une grande partie de son avenir.
Une confirmation, aucun match de foot ne se jouera les 5 mai en France, quand ce sera un samedi en hommage au 5 mai 1992, date de la catastrophe de Furiani qui avait fait 18 morts cette fois. C'est acté, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport.
Il fallait qu'à un moment donné, on rappelle que ce qui s'est passé à Furiani est un drame national, le plus grand drame d'ailleurs que la France ait connu en matière d'accidents dans un stade de football, et qu'à ce titre, nous devions reconnaissance vis-à-vis de toutes les victimes, de tous les blessés qu'il y a eu ce jour-là, et que donc, à travers l'accord qui a été trouvé, je crois que c'est un hommage national qui sera rendu, et c'était pour moi tout à fait normal.
Thierry Braillard avec Clément Matisse.
On voit tout dans le foot, hein, même des supporters qui agressent un joueur de leur propre club.
Et ça ne se déroule pas dans un championnat exotique, mais bien en France, à Lens précisément. Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud s'est retrouvé violemment pris à partie par des supporters lensois, Loïc Lefort.
La scène se déroule samedi à Arras. Benjamin Bourigeaud est alors accompagné de sa petite amie et de Baptiste Guillaume, un ancien Lensois qui vient de signer ce jour-là chez le voisin lillois. Cette nouvelle rend furieux les supporters de Lens et les insultes pleuvent sur les réseaux sociaux. Le soir, dans une boîte de nuit de la ville, 6 personnes interpellent puis agressent le nouveau joueur de Lille. Benjamin Bourigeaud s'interpose pour défendre son ami. Il est à son tour pris à partie. Bilan, une fracture du doigt et une opération chirurgicale. Un vrai coup dur pour le joueur qui risque de manquer le début de saison du RC Lens, mais aussi pour le club en tension permanente avec une partie de ses supporters.
De 3 à 5 ans d'interdiction de stade au Royaume-Uni et à l'étranger, la condamnation est tombée aujourd'hui pour les 5 supporters de Chelsea qui avaient empêché un homme noir de monter dans le métro parisien et avaient proféré des chants racistes. C'était en février dernier avant le match PSG-Chelsea en Ligue des Champions.
RMC France Olympique.
Et l'Euro de basket, ça commence maintenant.
Début de campagne pour les basketteurs français. La compétition, ça ne sera qu'en septembre. Mais avec un Euro en France, c'est du sérieux. La préparation commence cette semaine. Premier entraînement aujourd'hui à l'INSEP pour les 16 joueurs sélectionnés par Vincent Collet. Premier pas d'un chemin qui sera très long, Vincent Delzesco.
Exactement, les Bleus qui se sont retrouvés à l'INSEP lundi donc et ce matin. Premier entraînement collectif, une séance ouverte aux médias, suivie d'une conférence de presse à l'américaine, s'il vous plaît. C'est du basket où les joueurs attendaient sagement les journalistes pour répondre à leurs questions. Évoquer une préparation studieuse, écoutez Antoine Diot, le meneur des Bleus.
Ça y est, là, c'est parti. La victoire finale, s'il y a, elle commence aujourd'hui, et qu'il faut bien préparer ces matchs-là sur le terrain. Et c'est en faisant des grosses séances d'entraînement qu'on progresse.
Et elle a été copieuse, cette séance d'entraînement, opposition, répétition des systèmes. Les repères entre les joueurs existent, les automatismes aussi, pas de place pour le basket loisir ce matin. Les Bleus sont déjà entrés dans le vif du sujet, c'est ce qu'explique Nicolas Batum.
Là, on l'a pu voir aujourd'hui, ça joue. On rentre sur le terrain, on joue voilà, pour gagner derrière, donc le travail c'est le même. On essaie de se pousser les uns les autres, de pousser les limites, de se pousser chacun au meilleur de soi-même, d'avoir le maximum de chacun, de chaque joueur. Donc on bosse à fond, il n'y a pas de concurrence certes, mais on sait que le 4 septembre, les gens vont vouloir nous marcher dessus, donc faut se préparer à ça.
Rentrée des classes bien effectuée donc pour les Bleus. Seul Nando De Colo n'a pas pu prendre part à la séance. C'était par précaution. Il est touché à un mollet. Rien de grave, a-t-il assuré.
Et le capitaine des Bleus, Boris Diaw, sera notre invité dans un petit quart d'heure maintenant sur RMC. Ça y est, les rugbymen français ont terminé leur périple en haute montagne.
Ça a duré 2 jours, Virginie. Ils ont tout fait, sauf toucher un ballon de rugby. Il faut de tout pour préparer la Coupe du Monde qui débute en septembre. Depuis hier, c'était vélo, alpinisme, dodo près du glacier. Et à la fin, tout le monde a même manqué de se noyer dans le lac de Tignes, Laurent Depré.
Oui, Martial, un stage de cohésion sans ballon, mais qui n'a pas manqué de rebondissement. Les joueurs ont découvert au fur et à mesure les activités proposées à la Watt Bike, ils s'en doutaient, mais pas à 3000 mètres d'altitude. La montée du col de l'Isran en VTT non plus, et encore moins la vertigineuse Via Ferrata et ses apics à franchir. Mais le sommet, c'était ce matin, à l'aurore. En cordée, ils ont découvert le glacier de la Grande Motte pour aller, en franchissant crevasses et autres pièges glacés, planter un drapeau tricolore, et oui, hauteur 3640 mètres. Ce qui monte doit descendre, Martial, et oui, on le sait, nous. Hein. Donc, retour à 2100 mètres avec du ludique. Tir à l'arc, pas de blessés, je te rassure. Des relais entre coureurs à pied et cyclistes pour boucler le plus vite possible le tour du lac. Un sprint de plus de 2 km. Et enfin, Interville, mais sans vachette. 8 groupes de 6 ont dû assembler 8 radeaux complètement artisanaux le plus vite possible pour ensuite pagayer à fond pour boucler le tour du lac. Cette fois-ci, à l'intérieur, dans l'eau. Hein. L'équipage Cocotte, Maestri, Chouli, Ficou, Lamera et Tchoki a hissé le premier, le drapeau noir à tête de mort, victorieux. Là, en ce moment, c'est barbecue, décompression et autorisation enfin d'utiliser les smartphones.
Laurent Depré à Tignes, merci Martial. Tout à l'heure, 19h pour l'actu sport sur RMC. Cyril Guimard, étape Ralou après une 17e étape pleine de rebondissements sur le Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
L'intégral tour, on est ensemble jusqu'à 21h. On rejoint tout de suite Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Après cette première étape dans les Alpes, il y a eu beaucoup d'actions là quand même. Hein.
Ah oui, on s'attendait à un spectacle hein, sur les 4 dernières grandes étapes alpestres. Eh bien aujourd'hui, il y a eu tout. Il y a eu le côté, on va dire, espoir cocorico avec Thibaut Pinot. Derrière, au niveau des leaders, il y a eu aussi une vraie explication avec quand même une victime de taille au niveau du classement général, bien sûr, c'est Contador. En fait, il y a eu 2 chutes qui ont été très importante dans cette étape, la chute de Thibaut Pinot dans la descente d'Alos qui vraisemblablement le prive de la victoire ici à Pralou, et puis également et toujours dans cette descente d'Alos, la chute sans gravité de Contador, mais qui va lâcher 2 minutes de plus au classement général, ce qui vraisemblablement va le priver d'une possible place sur le podium de ce Tour de France.
Alors on va revenir sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, c'est vrai qu'il a fait une très belle attaque dans la montée, mais bon, c'est vrai que la descente, c'est toujours pas son truc. Il est tombé, ça arrive. Il est tombé parce qu'il avait peur, ou il a eu peur après la chute parce qu'il était tombé?
Non, il fait une belle descente. C'est pas naturellement un descendeur, donc il va pas attaquer les courbes 5 à l'heure plus vite que tout le monde, mais il est bien en position, il est bien sur les trajectoires. Il a une petite réserve de sécurité. Il a perdu à ce moment-là qu'une dizaine de secondes, même pas sur Geschke, l'homme de tête. Et il est bien, et puis d'un seul coup, il y a ce virage où il est là aussi bien en position. Que s'est-il passé pour que la roue arrière décroche? Bon, on n'a pas d'explication très précise sur les images. Il va décrocher au moment où il prend de la motricité, c'est-à-dire qu'il recommence à pédaler. Est-ce que la pédale effleure plus ou moins le bitume, ce qui le fait délester de l'arrière et donc le projette à terre sans conséquence physique? Sauf que derrière, eh bien, il va être un peu plus crispé, ce qui est tout à fait logique juste
après.
Oui,
c'est ça, dans la tête. Après, c'est quand même compliqué de repartir aussi vite.
Oui, alors certains qui sont des vrais descendeurs et où l'adrénaline vient par saut de 10 litres, très rapidement ils vont se rejeter dedans, mais c'est pas le cas de coureurs qui ont déjà quelques appréhensions. Et puis bon, il avait un petit problème de guidon qui ne l'a sans doute pas rassuré.
Est-ce que ça s'apprend la confiance en descente?
Si on est très mauvais, on peut devenir moins mauvais. Si on est bon, on peut devenir très bon. Mais de quelqu'un qui a des appréhensions, des peurs, on peut s'améliorer, on peut retrouver une certaine confiance, mais on ne sera jamais le meilleur descendeur du peloton. Mais Thibaut a fait quand même depuis, rappelez-vous, il y a 2 ans, j'ai envie de dire, il prenait les virages plus vite en montant qu'en descendant. Bon, c'est une image, bien sûr. Hein.
Oui.
C'est une
J'espère,
image.
En tout cas.
Oui. Par rapport à il y a 2 ans, les progrès sont immenses. Disons qu'aujourd'hui, il est un honnête descendeur, on va dire dans le ventre mou des descendeurs, quoi. Mais il faut pas qu'il ait une petite appréhension. Il faut pas qu'il ait ce qui lui est arrivé aujourd'hui et qui lui coûte, je le répète, vraisemblablement cette victoire d'étape.
Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, particulièrement?
Oui, il a travaillé. Il a même fait un peu de pilotage automobile. Il a fait un peu de pilotage sur glace, ce qui aide à sentir les trajectoires, ce qui permet également de sentir un petit peu la glisse. Ça peut également apporter, parce que le gros problème dans les descentes, c'est ce qu'on peut appeler l'espace-temps, c'est-à-dire la vitesse par rapport à l'obstacle qui est le virage sur lequel il va falloir maîtriser sa zone de freinage, et surtout ne pas avoir peur, parce que si on maîtrise bien sa zone de freinage, on va pouvoir également asseoir sa trajectoire derrière, donc sa venue au point de corde et sa reprise et son relâchement après pour aller chercher l'extérieur. Si on est bien comme cela, en principe on passe et on lâche les freins relativement vite une fois qu'on est rentré dans la courbe. À partir du moment où vous avez une petite frayeur, les freins, vous les lâchez un petit peu moins. Comme vous les lâchez moins, souvent, vous provoquez un système qu'on connaît bien, c'est-à-dire de survirage. Et puis surtout, vous sortez moins vite du virage. Comme vous sortez moins vite, ça veut dire que toute la ligne droite derrière va être impliquée dans ce manque de vitesse. Et les secondes, vous les perdez progressivement.
Antoine, au 32-16, veut nous parler de la course de Thibaut Pinot. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir,
Antoine.
Alors, cette course de Thibaut Pinot, qu'en as-tu pensé, Antoine?
Personnellement, j'ai trouvé plutôt pas mal la course. Il a fait une belle montée dans le col d'Allo. Par contre, justement, comme disait Cyril, la descente était un peu moyen à cause de sa chute, qui a fait perdre confiance et ce qui a coûté certainement la victoire d'étape. S'il avait fait une bonne descente, il aurait eu un retard minimum dans le Praloup et après, il aurait pu rattraper Simon Geschke et remporter la victoire.
Non, mais je pense également que sans cela, il aurait terminé. Il aurait peut-être été rejoint d'ailleurs par Talansky, mais seulement par Talansky, et à deux, effectivement, l'écart ce serait beaucoup réduit. Et puis surtout, Thibaut n'aurait pas taqué le pied du col aussi vite, aussi nerveusement, avec autant d'impulsion. Il s'est quand même mis un petit peu dans le rouge au pied. Et là, ça pardonne pas. Au bout d'un kilomètre et demi, il y a un moment, faut refaire les niveaux. Mais il n'avait pas le choix. Alors que, à l'inverse, Geschke a attaqué le pied du col avec un matelas relativement important, plus d'une 30, même pratiquement une 45, une 50, une 50-50 même sur Thibaut, ça lui donne un matelas relativement important, ce qui fait qu'il peut attaquer le pied en étant en dessous de ses seuils, c'est-à-dire en dessous de son max, et progressivement, en fonction des écarts qu'il peut recevoir, eh bien, il va accélérer progressivement, et à 4 km de l'arrivée, 3 km de l'arrivée, là, il peut toucher, il sait que ça rentrera plus. Cette gestion pratiquement obligatoire a condamné également Thibaut, mais tout ça n'était que des conséquences de ce qui s'était passé avant.
Bon, et puis ce soir, Chris Froome a toujours le maillot jaune sur les épaules.
Hein. J'ai
l'impression, hein, j'ai cru voir ça. Antoine, tu voulais également parler de ça et notamment du fait qu'il n'ait pas été attaqué. Il était un petit peu attaqué quand même.
Si.
Oui, justement, mais il a été attaqué à 60 km de l'arrivée, à peu près par Alberto Contador, entre autres. Mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, dans la montée de Pralou, Nairo Quintana est un des seuls à attaquer, mais seulement à 2 km. S'il avait attaqué un petit peu plus loin, peut-être qu'il aurait pu creuser un peu d'écart sur les poursuivants comme Nibali ou Valverde qui n'ont pas suivi. Bon, je pense que Froome aurait quand même suivi Quintana sans surprise, mais je pense que Quintana aurait pu accroître son avance sur Nibali ou Valverde encore, attaquant d'un petit peu plus loin. Il semblait beaucoup plus fort que les autres, Quintana.
Oui, on peut toujours se poser la question. Il y a eu effectivement une attaque de Contador dans le col précédent, le col d'Alos, mais il n'y a pas eu de contre derrière. On est loin de l'arrivée. Et Contador ne pouvait pas aller très loin parce que où il était rejoint, il l'a été d'ailleurs par Valverde. Mais il aurait fallu que, je sais pas comment vous dire, mais il faut que le maillot jaune soit en difficulté pour l'attaquer. Tant qu'il est comme il est en ce moment, quand vous attaquez, vous risquez surtout une chose, c'est d'exploser. Parce que quand vous attaquez, vous produisez un effort qui est au-dessus de votre max. Ensuite, il faut vous restabiliser là où se situe votre seuil. Mais vous allez avoir, de toute façon, ce qu'on va appeler une petite dette d'oxygène qu'il va falloir assumer. Or, Froome ne répond pas aux attaques. Tant qu'il répondra pas aux attaques et que progressivement il va revenir vous chercher, votre attaque vous met en difficulté par rapport à Froome.
Mais lui, Froome, il a aucune raison de changer et de répondre aux attaques. Il va continuer sa tactique, là, a priori.
Mais oui, parce qu'il a un matelas de 3 minutes 10 sur Quintana. Donc, d'ailleurs, vous remarquez, dans la dernière ascension, quand Quintana a attaqué la première fois, il l'a laissé prendre une vingtaine de mètres, et progressivement, il a enclenché, sans jamais lui aller au-dessus, alors que sur l'accélération, Quintana est obligé d'aller au-dessus. Donc il va le chercher, mais la deuxième attaque de Quintana, là il a rien laissé prendre, on était à moins de 400 mètres ou 500 mètres de l'arrivée, là il l'a pas laissé prendre 2,50 m, il y est allé, et il l'a maîtrisé.
Et alors,
donc pour l'instant il n'est pas attaquable, son niveau de performance actuel, seul Quintana est à peu près à son niveau, les autres sont tous en dessous, donc toute attaque met en danger celui qui attaque.
Justement Cyril, Si les favoris, on va dire, genre Valverde, Nibali, Quintana, Contador, attaquent dans la dernière montée chacun leur tour.
Au bout d'un moment... Non, alors là je te mets à l'aise tout de suite. Ils attaquent chacun leur tour et Froome finit tout seul.
Ah bah voilà, comme ça c'est clair.
Ben oui. Regardez, vous avez Valverde qui a roulé, qui a même attaqué dans la descente, qui ont roulé, les équipiers de Nibali qui ont roulé. Quand il y a eu l'accélération de Quintana, Valverde et Nibali ont sauté. Et ils sont d'ailleurs pas revenus. Ils sont donc restés qu'à deux. Et là, vous avez la photo exacte des valeurs. C'est-à-dire que si vous continuez à trop le chauffer, comme il gère en défense, eh ben, il va vous mettre minable sur le final.
Bon,
Dans ce cas, il a d'ores et déjà gagné le Tour de France, alors Froome.
Oui.
Si on vous suit.
Oui. Il faut qu'il ait un mauvais jour. Tant qu'il sera à ce niveau-là, il n'est pas attaquable.
Antoine, à 19h, Cyril sera à nouveau là avec Christophe Cessieux et toute l'équipe, et il va t'en dire encore plus sur la future victoire de Chris Froome. Hein, si j'ai bien compris, ça va être comme ça que ça se passera. Merci beaucoup d'avoir appelé le 32-16. Cyril, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Donc, avec Christophe Cessieux, avec toute l'équipe. Nous, dans un instant, on est en ligne avec Boris Diaw, le capitaine de l'équipe de France de basket avant l'Euro qui aura lieu en France en septembre. Ça y est, les Bleus sont réunis pour se préparer. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 18h30, c'est l'intégral tour sur RMC jusqu'à 21h. L'Eurobasket, c'est en France, c'est en septembre, mais en fait, ça commence vraiment aujourd'hui.
RMC, France Olympique.
Parce que les joueurs de l'équipe de France commencent leur préparation. Ils sont réunis à l'IMS, à l'INSEP. Julien Richard, à l'IMSEP, je sais pas ce que ça pourrait vouloir dire, mais on peut essayer. Tu étais là, à l'IMSEP, donc, pour les accueillir ce matin.
Rentrée des classes, oui, rentrée des classes qui aura permis, s'il en était encore besoin, aux 16 joueurs sélectionnés par Vincent Collet de se rendre compte qu'un euro à domicile, bah, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. 80 journalistes environ présents ce matin à l'INSEP, donc dans le bois de Vincennes à Paris. C'est du jamais vu, hein, pour assister. Alors, dans un premier temps, à entraînement du jour. Et devant les caméras, ils n'ont pas fait semblant. C'était la première vraie séance d'entraînement collective. Une grosse opposition avec de l'engagement. Vincent Collet a fait réviser les systèmes à ses joueurs. Seul Nando De Colo était ménagé car légèrement touché à un mollet. Et puis c'était le premier entraînement pour Tony Parker, arrivé simplement la veille.
Ouais, il était en retard, lui.
Il était un petit peu en retard, ouais. Sinon, les autres sont arrivés entre dimanche et hier. Dernière conférence, conférence de presse à l'américaine, avec ça se passait sur le terrain, des joueurs disponibles pendant une heure, chacun attendait bien sagement à son poste derrière une petite feuille avec son nom. Tony Parker évidemment le plus sollicité, comme d'habitude. Tipeee avec son crew, son équipe, il y avait son garde du corps, son
Tipeee Family,
c'est un,
quoi.
Ouais, c'est un peu son homme à tout faire, son chauffeur, son attaché de presse. C'était aussi une journée pour les partenaires avec séance photo collective et individuelle, des photos qui serviront de support pour la communication, pour la Fédé et pour les partenaires, donc pour cet Euro en France. Ça se déroulait sur les terrains de badminton juste à côté, dans un petit espace qui a été créé pour les joueurs avec des bornes de jeux vidéo et des pots de bonbons qui ont eu, je dois le dire, pas mal de succès. Vendredi, les Bleus quitteront l'INSEP pour Pau où ils resteront en stage jusqu'au 30 juillet. Particularité de cette préparation qui débute, il y a beaucoup de villes différentes, beaucoup de matchs amicaux, donc beaucoup de transferts. C'est un peu les Rolling Stones en tournée, avec comme conséquence moins d'entraînement. Vincent Collet les a comptés, ça en fait 8 en moins, mais il paraît que ça pose pas de soucis. En tout cas, Vincent Collet donnera sa liste réduite à 12 joueurs vers la mi-août.
Merci. À plus de bonbons et moins d'entraînement, ouais. J'espère que ça va aller. On va accueillir notre invité qui est Boris Dio, le capitaine des Bleus. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Alors, une centaine de journalistes pour vous accueillir à l'INSEP, ça fait quoi d'être les Rolling Stones là finalement?
Non, c'est pas les Rolling Stones encore. Mais non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout de voir l'engouement qui est créé autour du basket français en ce moment, autour de l'équipe nationale. Et puis pour nous, ça lance aussi la campagne.
Donc ça y est, hein, vous êtes tous au rendez-vous, là, tous à l'INSEP. On retrouve ces marques tout de suite dans ces cas-là. Hein, vous avez l'habitude, vous, ça fait quand même quelques années que vous vous retrouvez là.
C'est sûr, ça fait quelques années que je me retrouve là. Et puis surtout, j'étais pensionnaire de l'INSEP il y a 15 ans. Donc ça m'apporte toujours un petit côté nostalgique de revenir ici.
Je sais qu'on vous pose la question à chaque fois, mais à chaque fois, est-ce que vous mesurez le chemin parcouru quand vous revenez là?
Oui, régulièrement, on se repense sur le chemin qu'on a parcouru, sur les choses qui ont pu être faites, et puis d'où on est parti. Et c'est vrai que les choses se sont construites aussi petit à petit sur une décennie.
Bon, alors là, ça fait un petit moment que la saison est terminée pour vous avec les Spurs, hein, avec cette élimination assez précoce en play-off. Qu'est-ce que vous avez fait depuis?
Depuis, j'en ai profité déjà pour me reposer, avant tout, parce que c'est vrai que les saisons sont longues, se suivent, et qu'on n'a pas forcément l'occasion de se reposer, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, ce qui est très important. Et donc j'en ai profité déjà pour couper, pour me reposer. Et puis ensuite, il y a toujours une partie pour se maintenir en forme avant de réattaquer la campagne.
Alors déjà, on sait quand même que vous avez fait un safari, hein. Vous avez pris des photos d'animaux pour faire un livre avec National Geographic pour les enfants, c'est ça?
C'était pas cet été, hein, le safari. Le livre, il sort maintenant, ça fait 2 ans qu'il est en production. Mais donc ouais, j'ai fait pas mal de safari dans ma vie. Ouais. Donc il y a le livre, ouais, qui est sorti, c'est National Geographic. Donc en plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de fierté par rapport à ça.
Maintenant, il faudrait peut-être faire des photos des coulisses de l'Euro, non, avec cette équipe de France de basket?
Ah, j'y ai pensé, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont m'occuper, je pense. Il faudrait que je me concentre sur 2-3 autres choses quand même pendant l'Euro.
Bon, on va revenir à cette équipe de France. Tony Parker dit que cette équipe en 2015, c'est la plus forte de l'histoire du basket français. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il raconte n'importe quoi?
Tony, il raconte n'importe quoi, c'est sûr. Non, c'est vrai que je suis pas forcément partisan de comparer les générations. C'est la même chose que le débat Michael Jordan ou LeBron James. C'est difficile de comparer des équipes qui ont pas joué dans la même époque. Donc de tous les temps, c'est compliqué. Après, de ces dernières années, c'est sûr que c'est une équipe qui a un fort potentiel. Après, on juge les équipes une fois qu'elles ont fait les résultats.
Hein. Les résultats, vous en avez quand même quelques-uns. Là, vous êtes tenant du titre pour 7 euros. La Coupe du Monde, vous avez terminé sur le podium. Donc vous avez conscience des attentes, là, forcément, que suscite ce nouvel euro qui, en plus, est en France.
Exactement, c'est pour ça, les choses sont pas finies encore. Donc il faut aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher, et on est bien conscient des attentes, on a les mêmes d'ailleurs, on attend de nous-mêmes d'aller gagner et de continuer à engranger des victoires et des titres.
On est d'accord que l'objectif, là vous nous le dites, c'est gagner l'euro.
Oui, l'objectif premier, c'est bien sûr gagner l'euro. Il y a 2 ans déjà, on a gagné. Et même avant cette compétition-là, c'était l'objectif, parce que on sortait d'une médaille d'argent et que on voulait de toute façon progresser. Donc la prochaine étape après la médaille d'argent, c'était la médaille d'or. Et puis là, étant champion en titre, on peut pas avoir d'autre ambition que de gagner encore.
Boris Diaw, le capitaine de l'équipe de France de basket, est notre invité dans l'intégral tour sur RMC. L'Euro donc a lieu en France, c'est une première depuis 1999. Ça change quoi pour vous que l'Euro soit en France?
Ça change pas mal de choses pour nous. Vraiment une grosse excitation, parce qu'on va pouvoir jouer devant notre public. C'est quelque chose qui est particulier pour nous depuis toutes ces années. Je me souviens avoir regardé les matchs en 99 en France et depuis avoir toujours rêvé de venir et de pouvoir faire une compétition internationale en France devant notre public, une proximité qu'on n'a pas forcément, puisque pour la plupart on joue à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne, en Turquie, donc pendant toute l'année on n'est pas proche de notre public, et puis l'été on est en équipe de France, mais on va toujours faire des compétitions à l'international. Donc là, le fait de pouvoir être à la maison, c'est vraiment un plus pour nous.
Et ce public français, il a quoi de particulier, vous qui connaissez pas mal de publics dans le monde?
C'est qu'il va être derrière nous. Moi, je me considère public français aussi. Et c'est vrai que je suis souvent assez chauvin quand on parle des équipes nationales, et donc notre public aussi. Donc je sais qu'il va être à fond derrière nous, et on va essayer de lui faire honneur.
On peut pas comparer, par exemple, quand vous jouez à San Antonio avec les Spurs et avec l'équipe de France en France.
Non, c'est complètement différent. Déjà, c'est équipe nationale contre club. Donc c'est vrai qu'à San Antonio, il y a un gros engouement, il y a un très bon public aussi. Et on a toute une ville qui est derrière nous. Mais là, c'est tout un pays, donc c'est encore plus démesuré.
Alors, on a parlé de cet objectif de gagner l'euro. La carotte, ce sont aussi forcément les Jeux Olympiques, parce que là, il faut aller donc en finale pour se qualifier directement, hein, c'est ça?
Oui, bien sûr, c'est l'autre côté de l'objectif qu'on peut avoir, c'est d'aller jusqu'en finale pour accrocher cette qualification directe pour les Jeux Olympiques de Rio.
Je veux pas du tout dire que vous êtes vieux, mais les JO, pour vous, ce serait un peu le dernier défi.
Si, vous êtes en train de dire que je suis vieux. Non, je ne dirais pas que c'est le dernier défi. Je dirais que j'arrêterai quand je serai trop vieux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
D'accord. Non, j'étais pas mal poli, je vous promets. Bon, vous avez tout connu avec cette équipe de France, des grands bonheurs, des déceptions aussi, forcément. Est-ce que tout ça, ça vous aide à aborder différemment les compétitions maintenant, comme ça, en début de préparation?
Bien sûr, tout ça fait partie de l'expérience. Le fait d'avoir des moments forts, d'avoir des grands moments de joie, mais aussi des défaites, des moments plus difficiles, ça permet d'arriver avec plus d'expérience. Et pour aborder une compétition, c'est primordial.
C'est long quand même, un mois et demi de préparation. Non, je sais que vous l'avez déjà fait souvent même, mais il n'y a pas des moments où on en a ras-le-bol, on se dit un mois et demi?
Non, ça va, parce que c'est vrai que là, encore plus que les autres années, on a vraiment l'excitation d'y arriver, et je pense qu'au fur et à mesure où on approchera du championnat d'Europe, ça va nous sembler de plus en plus court.
Alors l'Euro a changé de formule, hein. Il y a une seule phase de poule et directement un huitième de finale, donc un match à la vie à la mort. Ça fait pas un peu peur, cette formule-là?
Pardon?
Est-ce que cette nouvelle formule avec une seule phase de poule et après directement un huitième de finale, ça vous fout pas un peu la trouille quand même?
Si, mais c'est fait pour. C'est fait avant tout pour le public, d'avoir un match couperet qui soit en plus. Et pas le quart du final, et puis ça permet aussi entre guillemets de pouvoir se reposer, de pas avoir autant de matchs sur le championnat d'Europe et pas arriver lessivé sur les quarts de finale et demi-finale. Ça permet d'attaquer tout de suite avec des huitièmes et ça fait un challenge de plus pour le public, c'est bien.
Boris Do, juste en un mot, qu'est-ce que je vous souhaite, qu'est-ce qu'on vous souhaite en ce début de préparation?
On nous souhaite la santé avant tout. Il faut que toute l'équipe ait la santé et après la victoire.
Merci beaucoup Boris Diot, capitaine de l'équipe de France de basket qui commence à se préparer pour l'Euro à partir du 5 septembre. L'Euro, RMC qui est la radio officielle de l'Eurobasket. À bientôt sur notre antenne, Boris Diot.
Merci, au revoir.
Alors il y aura beaucoup de monde dans les salles bien sûr pour encourager cette équipe de France, et il y a aussi du monde au 32-16 pour encourager tout de suite déjà les Bleus. Pierre par exemple, bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Est-ce que cette équipe de France, Pierre, pour vous, elle est capable d'aller défendre son titre et garder son titre de championne d'Europe?
En tant que tenant du titre et devant son public, je pense qu'elle a surtout une grosse pression de résultats, hein, ça c'est évident. Après, voilà, il y a une super équipe, il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Je suis assez d'accord avec Parker quand il dit que c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais vue sur le papier, moi je la trouve parfaite.
Alors que Boris Dion nous disait il y a un instant, lui, que non, il n'était pas trop d'accord, qu'il n'aimait pas comparer les époques, en fait.
Je pense que, ouais, et surtout, il a pas envie de se mettre la pression, mais moi, je partage quand même plus l'avis de Parker que l'avis de Batum. Aujourd'hui, on a des super pivots, on a Ginza, Gobert, c'est vraiment des gars qui ont une vraie valeur en NBA, comme Batum, comme Parker. De Colo, c'est très fiable, il y a des jeunes, j'ai la balle, enfin, je trouve que c'est vraiment complet. Et quand je vois les autres équipes européennes, je pense que, voilà, sans chauvinisme aucun, on est grand favori, quoi.
Alors déjà, on a une phase de poule qui est un peu moins compliquée que dans d'autres groupes. Hein, quand je vois, par exemple, le groupe B, où il y a Serbie, Espagne, Allemagne, Italie, Islande et Turquie, vaut mieux quand même être dans le groupe de la France, on est d'accord?
Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'après, toutes les équipes sont quand même d'un certain niveau. C'est quand même homogène, mais c'est vrai que notre poule, c'est quand même pas la plus compliquée, c'est évident, ça c'est clair.
Ça permet de se mettre en jambes devant le public. Pierre, vous irez soutenir les Bleus en septembre?
Malheureusement, non. Malheureusement, j'ai pas de place pour aller les voir, mais...
Mais faudrait écouter RMC, hein. Faudrait écouter RMC, on se
voilà, il faut écouter, je vais essayer de les gagner à RMC. Je pense pas que j'aurai l'occasion, mais si je peux y aller, ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir appelé le 32-16 RMC, radio officielle de cet Eurobasket. Un rendez-vous à partir du 5 septembre. Dans un instant, on sera en ligne avec Laurent Depré, qui est à Tignes, auprès du 15 de France, et puis avec Renaud Longuèvre, le manager des équipes de France d'athlétisme, parce qu'on est à un mois tout pile des Mondiaux de Pékin, tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h46, l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Toutes nos équipes de France sont en préparation en ce moment. Les basketteurs, on vient d'en parler. Les rugbymen aussi.
RMC Rugby 2015.
Et voilà, on a retrouvé la 7e compagnie avec à sa tête Laurent Depré. Salut Laurent.
Salut Virginie, bon anniversaire, j'ai pas pu te le dire hier.
Voilà. Ah merci, ah ben c'est gentil Laurent. Tu es donc toujours à Tignes auprès des joueurs du 15 de France. Ça y est, le stage commando est terminé. Ça veut dire que ça y est, ils peuvent à nouveau utiliser leur smartphone, hein?
Ouais, et ça désingue à tout va, hein. C'est l'impression que tu veux que c'est un manque qui est maintenant comblé. Non, ça c'est pas ce qui règle leur vie, mais quand même, ils en ont profité pour se jeter dessus, parce qu'ils sont allés se reposer dans leur chambre avant de se reprendre leurs petites occupations. Et évidemment, on a eu droit à un petit classement, un petit peu des occupations de ce stage commando sans ballon de rugby. En numéro 1, c'est ce qui s'est passé ce matin à 5h30, levé à l'aurore, ça valait le coup, c'est tout simplement monter au sommet du glacier de la Grande Motte, 3640 mètres, en 3 groupes de cordées par 4, et ils ont planté le drapeau tricolore en haut. C'est très sérieux, beaucoup moins sérieux. Ils ont fait une bataille de boules de neige de plus de 10 minutes qui a fait pas mal de dégâts. Et puis finalement, ils ont repris forme humaine pour redescendre en bas. Deuxième au classement, c'est simplement la montée du col de l'Isran en VTT hier, 18 km. Quand on a des physiques de rugbymen sous le soleil, chapeau messieurs. Et puis le troisième, peut-être la plus spectaculaire, surtout pour ceux qui ont le vertige, et ils étaient nombreux, c'est simplement la Via Ferrata avec des apics de plus de 200 mètres, 300 mètres des parois verticales à escalader. Chapeau messieurs, voilà pour le classement. Ça c'est grâce, on va dire, au retour à la vie sur les réseaux sociaux de nos Lost Commando pendant 48 heures.
Mais c'est vrai que de l'alpinisme avec des corps de rugbymen, c'est comme ça, ça fait un peu peur. Mais bon, ils n'ont pas fait que ça. Il y a eu un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont construit des bateaux.
Oui, ça s'apparente un peu à Interville, tu vois. On te donne un jeu de Lego grandeur nature, tu dois me faire quelque chose un petit peu bizarre, et puis traverser un lac, et puis pagayer, puis aller vite. En clair, ils ont eu chaque groupe de 6, il y avait 8 groupes de 6 pour être exact, avec du staff et des joueurs dedans. Ils ont reçu 6 bidons de 200 litres vides et étanches, des longerons en bois, hein, des rondins, ainsi que des jeux de cordes et un tout petit plan, un aide-mémoire pour essayer d'assembler tout ça pour que ça flotte avec 6 rugbymen pour pagayer. En moins d'une heure et demie, l'équipe de Rory Cocotte, Johan Maestri, Damien Chouli ou encore Xavier Ciocci, ils étaient 6 au total, ils ont réussi à monter tout ce mikado géant flottant et ensuite à faire le tour du lac à force pagaie. Chapeau messieurs, tout le monde a rallié bon port. Il y a quelques radeaux qui se sont disloqués, mais personne ne s'est noyé. Heureusement, ils sont tous là maintenant, secs à l'heure où on parle.
Alors heureusement, effectivement, mais alors est-ce que vraiment tout ça, ça soude un groupe? Parce que moi j'ai un peu l'impression qu'on me parle d'un centre aéré là quand même. Est-ce que tout ça c'est utile pour une Coupe du Monde de rugby?
Si on reprend un petit peu la montée en puissance de ce stage commando, il y a eu énormément d'énergétique, énormément de débauche d'énergie. Ils ont repoussé leurs limites. Donc déjà, on voit le caractère des hommes. On voit aussi la capacité d'entraide. C'est important dans un groupe parce que un match de rugby ou une compétition de rugby, il y a des hauts, il y a des bas. Ce sont surtout dans les bas qu'on s'affirme les caractères et qu'on voit si on a de la moelle, si on peut aller au bout. Donc petit à petit, on est monté en puissance et le sommet, c'était effectivement le cas de le dire, ce matin, le sommet à 3640 mètres. Là, si on tire trop sur la corde, trop de pression sur de la pression, on risque de trouver l'effet inverse recherché, on risque d'avoir des dissensions, des rancœurs, des jalousies, de la fatigue là-dessus s'ajoutant, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de ludique ce matin et cet après-midi avec du tir à l'arc, j'ai oublié de t'en parler, ce matin à 10h. Et puis cet épisode aquatique et tout s'est terminé par un barbecue, l'anniversaire fêté à Fulgence Cuadraogo. Et oui, il est le même jour que toi, Virginie.
Ah ben voilà,
et
puis, c'est très bien.
Je suis pas certain qu'il n'ait tourné qu'à l'eau claire au barbecue. Voilà, un petit peu de relâchement de pression. Demain, c'est off, ils vont pouvoir se reposer tranquillement avant de repartir pour véritablement la préparation rugby qui va débuter après Tignes.
Merci beaucoup Laurent Depré, notre spécialiste rugby. Envoyé spécial à Tignes, la Coupe du Monde de rugby, c'est le 18 septembre. On a plein de rendez-vous, hein, puisque d'ici là, il y a aussi dans un mois tout pile, les championnats du monde d'athlétisme.
RMC, France Olympique.
Renaud Longuèvre, le manager général des équipes de France, est notre invité dans l'intégral tour. Bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Alors on est à un mois donc des championnats du monde. D'abord, comment va votre équipe de France?
L'équipe de France, elle a de la ressource. Pour moi, elle est en préparation. On est dans une période où on vient de passer le championnat de France, qui était l'étape la plus importante pour assurer, valider les billets pour les championnats du monde. Et là, on a les derniers meetings. Ce week-end, nous serons à Londres sur 2 jours, vendredi et samedi. C'est le meeting anniversaire des Jeux Olympiques de Londres dans le stade olympique. Donc on aura une grosse partie des troupes qui sera présente à Londres. On a Renaud Lavilloni qui effectuera un concours de saut à la perche. On a également Jimmy Lico qui va courir contre un petit jeune qui débute, Usain Bolt. Et puis on a les deux 4x100 mètres qui vont s'aligner pour effectuer des réglages à grande vitesse. On a aussi un Cafécien Gomis qui est en embuscade sur le saut en longueur. Et puis j'en oublie sûrement.
Alors, on va parler de tous ces coureurs, de tous ces athlètes dans un instant, mais quand même, la mauvaise nouvelle là, c'est que Christophe Lemaître s'est à nouveau blessé. Lui, il ne sera pas donc à Londres. Il a déclaré forfait. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour.
Ouais, c'est la mauvaise nouvelle du jour parce que il avait déjà ressenti donc une douleur au fessier. C'était lors du championnat d'Europe par équipe.
C'était
en
fin juin,
chez Boxari. Ouais, tout à fait. Il s'était remis magnifiquement de ça en allant chercher les minima pour les championnats du monde sur le 100 mètres dans le sillage de Vico à Villeneuve-d'Ascq avec son 10.07. Et puis surtout, il avait fait un super 200 où il avait gagné le titre de champion de France. Donc c'était encore à Villeneuve-d'Ascq le lendemain, donc un super week-end pour Christophe, qui s'était magnifiquement relancé. Puis là, petite alerte, il a à nouveau ressenti une douleur dans la même zone. Alors, il semblerait que ce soit des cicatrices de la précédente lésion. Donc, on va attendre de voir. Pour moi, il n'est pas hors-jeu, il n'est pas
forfait.
Oui,
c'est ça, parce que pour l'instant, et on doit être optimiste, pessimiste pour lui, pour l'instant, il n'est pas forfait pour Pékin, hein.
Ah non, non, il n'est pas forfait pour Pékin, c'est simplement que ça a tiré sur un sprint. Donc c'est jamais bon signe, évidemment, quand il y a eu une lésion dans cette zone-là. Maintenant, il semblerait que les infos que j'ai pu avoir, moi, seraient plutôt de l'ordre de la cicatrice. Et c'est vrai que le muscle fessier, en tout cas, ne l'avait pas du tout handicapé sur le week-end des championnats de France. Donc voilà, moi, je pense que c'est plus de la précaution. Il n'est pas encore forfait sur le meeting de Stockholm qui aura lieu jeudi de la semaine prochaine. Donc, c'est vous dire que c'est pas aussi grave que Teddy Tamgo ou que Maïdine Mekissi ou que Johan Diniz qui va devoir se faire opérer.
Oui, par exemple, Johan Diniz, c'est vrai qu'il lui aussi est donc forfait hein, en marche pour ses mondiaux de Pékin. Ça, c'est officiel.
Voilà, ça c'est officiel. Effectivement, c'était trop douloureux. Johan a essayé à fond remue de tenter de s'entraîner sur les vitesses qu'il fallait, mais à un moment, je pense que son corps a dit stop. Donc, à un an des Jeux Olympiques, je pense que le grand défi qu'il attend, c'est surtout les JO maintenant.
Donc, il vaut mieux être prudent. Oui. Vous en parliez tout à l'heure, Renaud Longuèvre. Jimmy Vico face à un certain Usain Bolt, ça c'est vendredi. Il a affronté les plus grands sprinteurs de la planète là cette saison. Il ne manquait plus donc que Usain Bolt. Pour quelqu'un qui vient donc de devenir co-recordman du monde du 100 mètres, affronter... d'Europe. Je m'emballe un petit peu là d'Europe évidemment. Ouais. Qu'est-ce que ça peut lui apporter d'affronter quelqu'un comme Usain Bolt?
Pas forcément, hein. Jimmy, c'est quand même encore un gamin dans le concert du sprint mondial parce qu'il n'était que junior en 2011 quand il a mis le pied dans sa première finale mondiale, c'était à Daegu. Depuis, il a bien progressé, il a même bien explosé là cet été avec son 9,86 au meeting Areva. Mais Usain Bolt, je veux dire, c'est comme si dans les années 90, un sprinter se mettait dans les stars à côté de Carl Lewis, quoi. C'est que c'est juste une légende vivante encore en activité qui va tenter d'aller chercher les titres mondiaux et olympiques pour mettre une cerise sur un gâteau qui est déjà fabuleux.
Mais Bolt, on l'a quasiment pas vu hein, cette saison. Il se cache un peu, il voulait pas affronter Justin Gatlin notamment avant les mondiaux, c'est ça?
C'est vrai que les fins de carrière des sprinteurs, c'est toujours jongler avec les blessures. Hein. Il faut jongler avec le physique. Il a pu le corps en acier inoxydable qu'il avait aux Jeux Olympiques de Pékin ou même les années qui suivaient, 2009, son record du monde, ses deux records du monde à Berlin. Là, maintenant, c'est un garçon qui se prépare le jour J pour les grands championnats. C'est toujours là qu'il a fait ses meilleurs chronos. Et les meetings, pour lui, c'est juste un moyen d'abord de gagner sa vie et aussi de se régler, de se roder et d'acquérir le rythme spécifique pour les championnats. Donc, il a aucune envie de se décorner son image en se confrontant au garçon qui court vite quand il n'est pas prêt, lui. Donc, c'est ce qui me fait croire que là, il est prêt et qu'il est prêt à aller vite. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu face à Gatlin. Quand on l'avait vu face à Gatlin en meeting et qu'il n'était pas vraiment prêt, il a perdu. C'était à Rome l'an dernier. Et puis Gatlin en avait profité. Donc, c'est la raison pour laquelle Bolt a annulé quand même deux gros meetings. C'était Paris et Lausanne parce que les infos qu'on avait, c'est que physiquement, il avait tout un enchaînement d'inflammations et de douleurs qui font qu'il est allé se faire soigner chez Müller-Wohlfahrt en Allemagne. Mais là, s'il revient sur la piste, c'est forcément que tout est rentré dans l'ordre et qu'il est prêt.
Renaud Longuèvre, un tout petit mot sur Renaud Lavillenie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui à Londres? Parce qu'on l'a vu un peu sur courant alternatif là ces derniers temps, Renaud Lavillenie.
Je pense qu'il a eu un petit coup de mou au moment du meeting à Areva et puis du meeting de Lausanne. Il avait perdu un petit peu la qualité de sa fin de course, qui s'était un petit peu dégradée. Certainement parce qu'il avait un petit état de fatigue passager. Il est tellement à fond tout le temps que c'est quelqu'un qui tape dans le mur tout le temps, qui repousse ses limites tout le temps. Puis des fois, tout simplement, il y a le corps qui a besoin de souffler un petit peu. Donc il y a eu un petit passage de décompression sur ces deux meetings-là. Je veux dire, il n'y avait vraiment rien de gravissime. Et là, on l'a retrouvé à Monaco avec une fin de course beaucoup plus solide sur un sautoir qu'il affectionne particulièrement. Il lui manque maintenant juste la fréquence gestuelle qu'il avait cet hiver ou qu'il avait lors de son record du monde pour que ça redécolle au-delà de 6-10.
Merci beaucoup Renaud Longuèvre d'avoir passé quelques minutes avec nous sur l'antenne d'RMC, manager des équipes de France d'athlétisme. À très bientôt, 22 août, hein, on prend rendez-vous pour les mondiaux d'athlétisme de Pékin, RMC qui est la radio officielle des équipes de France. Et Christophe Cessieux, lui, il n'est pas à Pékin, il est à Pralou.
Eh oui, c'est moins loin, mais c'était un peu plus haut.
Ben oui, c'est plus haut, effectivement.
Exactement. Au terme de cette 17e étape du Tour de France, Virginie, on va évidemment revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il s'en est passé des choses avec Luc Leblanc, avec Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. On va notamment revenir sur Thibaut Pinot, qui a bien cru et qui nous a bien fait croire qu'il allait remporter son étape aujourd'hui. Vous êtes-il ravi ou déçu? Eh bien, on en posera la question. Et puis, nous parlerons également de la nouvelle démonstration de Chris Froome, à nouveau impérial. Quintana, parviendra-t-il à lui reprendre ne serait-ce qu'une seconde avant l'arrivée à Paris dimanche prochain? Voilà les thèmes de nos principaux débats qui débuteront juste après les infos de 19h.
RMC, Intégral Tour.